Bonjour à tous. Eh bien, Luc nous a mis sur la voie de notre thème de ce matin. Et vous avez dû voir dans les petites invitations aujourd'hui, c'est l'Église au travail. Et ça fait bien sûr écho au thème du mot d'ordre que nous nous sommes donné pour 2015, ouvrier avec Dieu, puisque le travail est au cœur même de la définition de l'ouvrier. L'ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille par nature, par définition, au point même que la racine du mot ouvrier renvoie à des mots comme ouvrage ou œuvre, qui est donc en rapport avec le travail. Et en matière de travail, ces dernières décennies ont été marquées par le travail. Un slogan politique a beaucoup marqué la question du travail jusqu'à assez récemment, comme par exemple, on a eu plusieurs slogans, dont un qui a été beaucoup commenté, travailler plus pour gagner plus. Et ce slogan venait en fait en opposition frontale avec une politique d'emploi diamétralement opposée, qui était celle des 35 heures, qui ne portait pas de slogan, mais peut-être dont le slogan aurait pu être travailler moins pour travailler tous. Et alors que dans un cas, la philosophie était plutôt portée sur le gain qu'apporte le travail, l'autre voulait plutôt mettre l'accent sur la solidarité collective, mais en fait, aucun des deux ne remet en cause la nécessité pour l'homme de travailler. Et d'ailleurs, Luc nous l'a bien commenté, et l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il écrit que celui qui ne veut pas travailler renonce aussi à manger. La Bible nous dévoile, et encore là aussi nous avons eu des lectures ce matin, la Bible nous dévoile un Dieu qui travaille tant dans sa création que dans le cœur des hommes. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous, ouvriers avec Dieu, qu'est-ce que ça signifie une église au travail? Tous nous savons que ce n'est pas ce que nous accomplirons ici en église qui mettra du beurre dans nos épinards. Vous pouvez toujours voir ça avec nos trésoriers, mais je vous garantis pas que le travail que vous pourrez faire en église vous permette de mieux vous substanter. Mais je vous propose comme base d'étude ce matin de prendre un passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, pardon. Donc voilà, merci Gabriel, qui nous dit ceci: c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Et nous découvrons, bien évidemment, sans faire de trop de paraphrases, dans ce passage important de la Bible, que ce que nous sommes, eh bien, nous le devons à Dieu. Personne n'a de raison objective de se vanter de ce qui nous est dit, que ce soit pour ses qualités intrinsèques, ses qualités naturelles. Certains vous parleront de bonnes fées, qui se sera penché sur le berceau de quelqu'un. D'autres l'attribueront au gène tout puissant, mais je préfère attribuer nos qualités, nos qualités naturelles à notre Créateur qui est l'auteur de toute vie. Et que ce soit aussi de faire partie du peuple de Dieu, c'est Dieu qui nous a unis à lui en la personne de Jésus-Christ, notre frère, notre sauveur. Et donc, tout ce que nous sommes dans notre être et dans notre appartenance à Dieu est destiné, nous dit ce passage, est destiné à produire toute une richesse d'œuvres bonnes, comme dit l'apôtre. Et peut-être il ne faut pas s'y tromper, la notion d'œuvre bonne n'est pas forcément celle ou ne se limite pas à celle qu'a retenue la sagesse populaire, qui n'en est qu'une manifestation parmi d'autres. Il ne s'agit pas que d'ouvrir son portefeuille pour se donner bonne conscience ou surmonter la culpabilité, peut-être d'être dans une situation plus enviable que d'autres déshérités. Rappelons-nous que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, et la vraie culpabilité serait de ne pas se montrer reconnaissant envers Dieu, reconnaissant pour toutes ses bénédictions, son salut, sa vie éternelle, qui est un don pour tous les hommes, sans qu'aucun d'eux puisse s'en vanter. Ce que nous sommes, nous dit l'apôtre, nous le devons à Dieu. S'il n'y avait pas eu de Christ, il n'y aurait pas de chrétiens. Et non seulement aussi parce que le mot chrétien a aussi pour racine le mot Christ, mais surtout parce que Christ est l'auteur de notre salut. Une expression que vous connaissez bien, qu'on entend souvent, c'est « hors de l'Église, pas de salut », c'est un petit peu pour se moquer de l'Église, et ce n'est pas tout à fait exact, ce serait plutôt « hors du Christ, pas de salut ». Voilà ce que nous disent les Écritures. Mais donc, où les hommes vont-ils rencontrer le Christ? Et par définition, c'est une des missions principales de l'Église, l'Église assemblée de tous ceux qui ont déjà rencontré le Christ, reçu son salut pour eux-mêmes, que de faire connaître aux hommes ce Christ, don de Dieu pour leur salut. Mission qui se vit en Église, par des actions d'Église, par une prière d'Église, par une présence et une communion en Église. Mission aussi qui se vit en dehors de l'Église, car quand nous franchissons ces murs, quand nous allons au dehors, nous ne cessons pas d'être l'Église. Nous sommes l'Église, nous demeurons l'Église au milieu de nos contemporains. Mission qui se vit comment? Par toutes sortes d'œuvres bonnes, nous est-il dit ici. Et bien évidemment, je ne veux pas entrer à ce stade dans une sorte de liste qui détaillerait toute cette accumulation, cette liste d'œuvres bonnes, si tant est qu'elle existe. Ouvrier avec Dieu, être ouvrier avec Dieu, ça ne consiste pas à cocher des bonnes actions faites à intervalles réguliers. L'Église au travail, ce n'est pas une salle de classe qui rendrait sa copie quand la cloche sonne. Et d'ailleurs, on n'a pas de cloche qui sonne, donc ça tombe bien. Je voudrais qu'on approfondisse plus particulièrement cette question dont il nous est parlé ici, qui apparaît en gras, des œuvres préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Des œuvres, donc un travail préparé à l'avance. Préparé par qui? Préparé jusqu'à quel point? Dans quel but? Et encore peut-être d'autres questions que nous pourrions nous poser. Et je vais vous inviter à écouter deux passages, deux lectures que nous ferons pour nous aider dans notre recherche. Passages qui sont tirés de cette partie de la Bible qu'on appelle les Actes des Apôtres et qui relatent ce qu'ont fait les apôtres et les premiers chrétiens après que, dans les années qui ont suivi la venue de Jésus sur la terre. Et évidemment, c'est bien dans un livre comme celui-ci qui porte son nom d'Actes des Apôtres, qui décrit l'Église primitive au travail, qu'on peut s'attendre à trouver des exemples d'œuvres bonnes. En quoi et comment elles sont préparées d'avance et de quelle manière elles ont été accomplies. Et donc le premier passage se trouve dans Acte 8, à partir du verset 26, et si André. Philippe donc est un chrétien dont on apprend peu avant qu'il avait été choisi avec 6 autres dans l'église de Jérusalem pour participer aux distributions de repas quotidiennes qui devenait une charge de plus en plus lourde pour une église en plein essor. Et donc, un de ses rôles, c'était de porter assistance aux personnes dans le besoin. Et quand on lit, quand on écoute un tel passage de Philippe qui rentre en contact avec cet Éthiopien et où on voit sa conversion, on se dit, mais des œuvres préparées comme ça, trop cool, quoi. Hein, vous imaginez un ange qui parle à Philippe pour lui indiquer le chemin, comme ça. Il tombe sur un homme en pleine recherche de Dieu, le nez dans les Écritures déjà, et qui demande des explications. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. ce même homme qui, dans la foulée, confesse sa foi en Jésus-Christ, demande le baptême et continue son chemin, le cœur joyeux, dans la paix de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, Philippe, qui se retrouve à Asdod, comme qui rigole, hein, pour prolonger son travail de l'annonce de l'Évangile vers Césarée. Des œuvres préparées comme ça, on en redemande. Peut-être même que certains trouveront que c'est un peu trop téléguidé. Et pourtant, je pense qu'on peut y regarder d'un peu plus près. Et pour ceux qui ont leur Bible ouverte, au verset 27, par exemple, il nous est dit que Philippe se leva immédiatement et se mit en route. Immédiatement. Et dans ce mot, il y a toute l'expression de la conviction, de l'obéissance de cet homme. On peut même se demander, eh oui, qu'est-ce qui serait advenu de cet eunuque si Philippe avait différé son départ, ne serait-ce que de quelques heures. Hein. C'est une rencontre de deux personnes sur un chemin, et voilà. Et quelques instants plus tard, la convergence n'a pas forcément pas lieu. Quand l'appel de Dieu se fait entendre, peut-être qu'immédiatement ne veut pas forcément dire sur le champ, mais en tout cas, ça devient une priorité. Combien d'anges, peut-être, n'avons-nous pas reconnu, et combien d'anges, peut-être, avons-nous éconduit, qui venaient comme des poteaux indicateurs de ce que Dieu attendait de nous. Quand un responsable d'activité, un responsable de groupe, vient nous solliciter ponctuellement ou plus durablement pour tel ou tel travail, est-ce que nous le considérons simplement comme un homme qui vient remplir ses effectifs, garder ses effectifs, ou est-ce que nous cherchons à discerner à travers sa demande ce que le Seigneur pourrait bien nous confier comme mission, comme œuvre préparée d'avance dans les temps qui viennent, les jours qui viennent ou de manière plus durable? En fait, Chantal et moi avons vécu une expérience très proche de celle de Philippe il y a une dizaine d'années environ. Un jour, nos enfants nous ont offert un séjour dans une chambre d'hôte en Ardèche. Au bord d'une route, je suis sûr, au moins aussi déserte que celle qui va de Jérusalem à Gaza. Et le soir, on s'est retrouvés autour d'une table, la table d'hôte, un peu perdue au milieu des conversations qui, je dois dire, n'étaient pas très passionnantes. Et vraiment regrettant plutôt de ne pas passer la soirée les yeux dans les yeux, en tête à tête. Mais tout à coup, quelqu'un a parlé des Darbistes, qui est une communauté chrétienne assez répandue sur le plateau ardéchois, et plusieurs se disaient, c'est quoi les Darbistes, etc. Et là, expliquant que les Darbistes sont une branche du protestantisme, vous vous rendez compte qu'un des couples boit vos paroles, littéralement, et puis se met à vous questionner sur votre propre tradition religieuse, et enfin sur votre foi. Et on en arrive à des choses très personnelles, et vraiment très comparables aux interrogations de cet eunuque éthiopien, aux grandes dames d'ailleurs des autres convives qui, franchement, ça les gonfle hein, prodigieusement. Et en fin de soirée, et le lendemain matin au petit déjeuner, ces deux personnes demandent où se procurer une Bible, comment approfondir la question avec d'autres chrétiens près de chez eux à Lyon. Et comme l'eunuque, dès cet instant, ils disparaissent de notre vie comme ils y sont rentrés. Et Chantal et moi, on s'est sentis, comme Philippe, transportés en ce lieu pour cette œuvre que Dieu avait préparée d'avance. Pourquoi nous, je ne sais pas. Pourquoi en ce lieu désert, alors que peut-être à deux pas de chez eux, il y avait des chrétiens, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas douter que Dieu nous avait conduits là, ce soir-là, associés à son plan de salut pour ce couple. Et vraiment, c'était bon. C'était vraiment bon de nous savoir ainsi ouvriers avec lui. Autre point qu'on peut relever pour atténuer un peu cette impression de tout cuit hein, qui semble ressortir de ce passage où tout tombe tout cuit sur Philippe, qu'on peut avoir peut-être en première lecture, il faut quand même que Philippe court jusqu'au char, écoute la lecture de l'eunuque et trouve comment entrer en contact avec lui. Et en fait, la manière dont il le fait est assez banale. Hein. Comprends-tu ce que tu lis ? C'est quelque chose qui lui est propre à cet instant-là. Un autre aurait dit tout autre chose. Et à mon avis, ce n'est pas ça qui détermine la suite des choses. Mais quand l'occasion est là, il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment où il faut se lancer. Et c'est peut-être parfois un cap difficile. Et on sent très bien que à ce moment-là, l'appel de Dieu pressant. Et ce moment détermine si on entre dans le travail que Dieu a préparé d'avance pour nous ou si on y renonce. Et même dans ce cas où l'œuvre a été préparée d'avance pour Philippe de manière si évidente, ces œuvres dont parle Paul sont préparées et seulement préparées. Rien n'est plié d'avance. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit en conclusion, préparer d'avance afin que nous les accomplissions. Il nous faut cette attitude de se dire, je prends les choses là où elles en sont, il m'est confié une œuvre telle qu'elle est, j'entre dans ce travail que Dieu me confie, et c'est une chose que Nicolas nous a souligné la semaine dernière en commentant l'épisode de Moïse devant le buisson. Dieu nous équipe, avoir confiance que Dieu nous équipe, et c'est évidemment bien pour accomplir cette œuvre bonne qu'il a préparée d'avance, sinon ce serait un peu nous envoyer au casse-pipe. Deuxième exemple que nous allons lire maintenant, qui se passe cette fois toujours dans le livre des Actes en compagnie de l'apôtre Paul. Actes chapitre 17. Alors, si vous vous remémorez l'épisode de Philippe avec l'éunuque éthiopien, changement de décor, hein ? Pas cool du tout là. Pas cool du tout. Job difficile. Hein ? Est-ce que Dieu aurait moins préparé cette œuvre que celle de Philippe, ou Paul se serait-il montré téméraire en se positionnant sur un terrain qui n'était pas celui sur lequel Dieu l'attendait? Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup moins spectaculaire, tant dans son état de préparation initiale et que dans le côté laborieux de l'accomplissement. On y voit Paul bouillir d'indignation face aux idoles des Athéniens. Les discussions sont stériles, oiseuses, et contrairement à l'eunuque leur seul intérêt à écouter Paul réside dans leur passion à débattre sur les questions philosophiques et religieuses. Et on voit Paul revenir chaque jour sur la place publique, engager des conversations avec tous ceux qu'il rencontre, sans résultat apparent. Il ne semble pas trouver parmi ces gens la moindre personne qui s'intéresse véritablement au message de Jésus-Christ. Pourtant, il ne baisse pas les bras et il est probablement convaincu que Dieu l'a placé là pour annoncer l'Évangile, que ce soit facile ou difficile, qu'il soit bien ou mal reçu, qu'il soit écouté ou moqué. Mais en fin de compte, la curiosité de ces gens est trop forte et ils perçoivent dans le message de Paul quelque chose d'étrange. Et c'est finalement à cause du fait qu'ils sont un peu friands de nouvelles de toutes sortes que Paul va finir par trouver un point d'accroche. Et ainsi, il aura fallu à Paul plusieurs jours de discussions, de rencontres, de visites de la ville, pour qu'enfin il puisse délivrer son message, le message de Jésus, Jésus Sauveur ressuscité. Il lui aura fallu se familiariser avec la culture de cette ville, qui va jusqu'à dresser des autels à des dieux qu'elle ne connaît même pas. Et Paul voulait rassembler cet auditoire pour se faire entendre, et il y parvient. Mais c'est pas cool. Et beaucoup de temps passé avec ces gens, beaucoup d'énergie dépensée pour, à la fin, quelques personnes seulement qui deviennent croyantes. Et les deux situations que nous venons de voir contrastent énormément. D'un côté, donc, Philippe, on l'a dit, envoyé vers un homme déjà en recherche, quelques mots d'explication suivis d'un baptême, et de l'autre, Paul qui engage un combat âpre avec ses discoureurs, plusieurs jours de travail avant qu'il soit invité à prendre la parole devant un public plus large, et un résultat à la fin qui paraît décevant au regard de la foule, seulement quelques croyants. Mais il ne faut pas s'y tromper. Paul est venu prêcher l'évangile aux Athéniens, et il a prêché l'évangile aux Athéniens. Et Paul a prêché les quatre points, et vous regarderez, vous les trouverez, les quatre points essentiels du message de Dieu aux hommes. Dieu a créé le monde et les hommes pour vivre en harmonie avec lui. Les hommes se sont détournés du plan de Dieu en choisissant la désobéissance et se sont séparés de lui. Et il pointe le doigt là-dessus, particulièrement pour les Athéniens, sur leur idolâtrie. Jésus-Christ a paru pour les réconcilier avec lui. Il a endossé le jugement qui les condamnait. Il est ressuscité comme preuve de sa victoire sur la mort. Et enfin, il appartient à chacun de recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, qui donne son esprit aux croyants pour marcher en nouveauté de vie. Ces quatre, ce que on trouvera dans Agapé comme les quatre lois spirituelles, ont été prêchées par Paul ce jour-là. Et c'est ça qu'il a prêché, non sans difficulté et avec apparemment peu de succès, mais c'était là et seulement là ce que l'œuvre, là et seulement là l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui en cet instant. Ce que en font les Athéniens, mais ça leur appartient. On ne doit pas juger l'action en son résultat, et en l'occurrence, prêcher l'évangile était l'œuvre bonne pour Paul à accomplir en cet instant, tout comme dans le passage de l'eunuque, et ensuite chacun va décider pour lui-même. Et donc les deux passages qui ont illustré notre réflexion sur les œuvres bonnes préparées à l'avance traitent de la question de l'annonce de l'évangile, ce que nous appelons l'évangélisation. C'était bien sûr une illustration destinée à montrer que pour un même sujet, et ici l'annonce de l'évangile, les choses peuvent se présenter, peuvent nous arriver, nous parvenir très différemment, avec plus ou moins d'évidence, plus ou moins de facilité, plus ou moins de satisfaction et aussi plus ou moins de résultats. Mais préparer d'avance ne veut pas dire mâcher à l'avance, ni plier à l'avance, et encore moins accompli d'avance. Et c'est bien ce que nous lisons dans notre verset de départ, des œuvres, une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. C'est bien à nous que revient la responsabilité de saisir l'œuvre bonne quand elle se présente et de l'accomplir avec persévérance jusqu'à ce qu'elle soit terminée, aussi bien quand elle se termine par le retour de l'eunuque dans son pays, joyeux et libéré du poids de ses péchés, que les Athéniens qui se dispersent, moqueurs, blasés, inaccessibles à toute mise en question personnelle. L'œuvre bonne, c'est cela que Dieu nous confie, et Dieu ne nous confie pas le résultat. Le résultat lui appartient, et dans le cas d'évangélisation, en matière d'évangélisation, le résultat appartient à ceux qui entendent le message. Jésus, si on suit son exemple, ne s'est pas détourné de la croix sous prétexte que peu d'hommes croiraient en lui. Jésus s'est montré obéissant, il nous a dit, et même obéissant jusqu'à la mort de la croix, sans objecter que peut-être le jeu n'en valait pas la chandelle. Et bien entendu, l'évangélisation n'est pas la seule œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance pour que nous l'accomplissions, mais c'était assez frappant de constater le contraste qu'il y avait entre ces deux passages, comment elle peut se présenter à nous de manière si différente. Pour Philippe, on pourrait dire que l'occasion lui tombe dessus, alors que Paul, lui, va la débusquer, la provoquer même. Paul, on le connaît bien au travers du livre des Actes, de ses écrits, et aussi de ce que disent d'autres apôtres, enfin Pierre en particulier. Et on n'est pas étonné quand on connaît le personnage, on n'est pas étonné de le voir à la recherche de cette occasion d'annoncer Jésus-Christ aux Athéniens. Philippe, si on le croise beaucoup moins, n'est pas non plus une personne totalement absente de ce livre des Actes des Apôtres. Comme je disais, il fait partie des sept qui sont élus par l'Église de Jérusalem pour s'occuper du service aux œuvres sociales. Mais on le voit déjà précédemment à cette rencontre avec l'eunuque, proclamer l'Évangile dans la ville de Samarie, y accomplir des miracles, chasser des démons. Et plus tard encore, un peu plus loin dans le livre des Actes, il est appelé Philippe l'évangéliste. Et donc c'est un homme en fait déjà prêt, c'est un homme déjà au travail qui reçoit cet appel de Dieu de rentrer en contact avec cet Éthiopien, de se rendre à Gaza sur ce chemin désert. Et j'en termine donc en revenant à notre mot d'ordre de cette année, ouvrier avec Dieu, pour nous rappeler qu'il fait suite à celui de l'an passé, consacré à Dieu. C'est consacré à Dieu que nous deviendrons ouvriers avec Dieu. C'est parce que nous lui serons consacrés, et qu'en cela, nous suivrons les modèles de Philippe, de Paul, qu'il nous confiera les œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les accomplissions. S'il revient à Dieu, si c'est dans sa souveraineté qu'il prépare pour nous ses œuvres à l'avance et qu'il nous confie ce travail, c'est à nous qu'il appartient de nous préparer à ce travail. Préparons-nous à accomplir ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et plus que cela, peut-être, entrons résolument et persévérons dans l'œuvre de Dieu, car Paul le dit aux Corinthiens, et c'est de cela qu'a été tiré notre mot d'ordre de cette année, vous êtes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.